Donc on va présenter un ouvrage qui vient d'être publié. Bonjour.
Bonjour. Écoutez, oui, l'ouvrage s'appelle le groupe d'exploitation de Lens-Liévin. C'est le deuxième ouvrage de la collection Pays et paysages industriels du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Le premier était consacré au groupe de Douai. Alors, pourquoi consacrer autant d'ouvrages à un territoire somme toute petit, puisqu'il fait 12 km de large et 120 de longueur? Ça s'appelle le bassin minier. Eh bien, parce que, en fait, les hommes, ici, ont creusé à peu près 600 trous, 600 puits. Tous n'ont pas été exploités, parce que dès qu'on rencontrait une difficulté, on arrêtait. Il y a eu 200 fosses, il y a eu au maximum 200 000, 220 000 mineurs. Et une grande partie de l'histoire française, de la prospérité de la nation française, est due au charbon du Nord-Pas-de-Calais, puisque le Pas-de-Calais et le Nord ont produit jusqu'à 67% du charbon français. Donc on est une région au cœur même de l'histoire de la modernité française.
Donc vous êtes un des auteurs de cet ouvrage ?
Didier Vivien, donc je suis universitaire, j'étais maître de conférence à l'Université de Lille. Je viens de prendre ma retraite en fait. Et j'ai rencontré Jean-Marie Minot qui était collectionneur et historien des installations. On a uni nos compétences et on a souhaité faire des livres exhaustifs, bien imprimés, bien documentés. Puisqu'il y avait beaucoup de livres sur le bassin minier, mais souvent des livres... un peu romancé ou très avec beaucoup d'émotions, voyez. Nous, on a souhaité faire une histoire plus objective, peut-être plus universitaire. Et surtout, on a basé nos livres sur la qualité des archives photographiques qui sont importantes puisque le charbon a été beaucoup photographié, certainement pour la raison que c'est un métier mythique, hein, Quand il faut représenter le prolétaire, oui, c'est un mineur. Et c'est quoi un prolétaire? C'est quelqu'un qui sacrifie sa vie au nom d'une transcendance qui est le progrès, la prospérité, la puissance française. Au 19e siècle, l'Angleterre et la France dominent le monde parce qu'elles ont du charbon et qu'elles l'exploitent.
Alors, ces photographies, pour beaucoup, au départ, elles sont le vœu, le souhait du patronat local, on va dire. Et après, c'est plutôt l'État qui s'empare des choses. Le citoyen, là-dedans, il intervient à quel moment? Le mineur, peut-être?
Oui, alors, effectivement, l'abondance des archives est due à un effort de propagande. Alors, il faut vraiment casser l'histoire de la mine en deux. Les compagnies sous régime capitalistique, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont des actions, un peu comme aujourd'hui. Alors il y a des grands actionnaires et de petits actionnaires, mais les grands actionnaires, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, c'est faire la pub, en fait, pour employer un terme très contemporain, montrer que leur compagnie est en pleine forme, qu'il faut acheter des actions, etc. etc. Donc on commandite des photographies pour montrer que c'est merveilleux, que c'est beau, que c'est grand, que c'est social. Donc il y a une photographie de propagande. Et après, en 1946, De Gaulle et le Parti communiste qui sortent grands vainqueurs de la guerre, De Gaulle parce que c'est De Gaulle, et les communistes parce que l'armée rouge a sacrifié 22 millions d'hommes à Stalingrad. Donc dans cette union entre communistes et gaullistes catholiques, c'est assez amusant quand même, vont être d'accord pour nationaliser les houillères. Et à partir de là, les houillères vont continuer cette politique de communication, de propagande, pour montrer que c'est un métier merveilleux, que la France est puissante. Il faut d'autant plus le faire qu'on a du mal à recruter. Et c'est pour ça qu'il y aura un recrutement venu du Maghreb. C'est-à-dire que la grande immigration polonaise, c'est les années 20. Pourquoi? Parce que les autochtones, ceux d'ici, beaucoup ont été tués à la guerre, 14-18. Et donc on fait venir dans le bassin minier 200 000 Polonais en quelques mois.
De Silésie, c'est ça?
Alors ils viennent de Silésie parce que la Silésie c'est la région minière de Pologne, mais certains viennent aussi d'Allemagne, de Westphalie, parce que les travailleurs polonais ont émigré très tôt. Et dans notre prochain ouvrage qui va paraître en septembre, on va par exemple mettre le focus sur Ostricourt. Vous voyez le secteur Ostricourt, Oigny, Libercourt. Il faut savoir que dans les années 20-30, à Ostricourt, la population est à 65% polonaise. Ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui le nombre de gens qui ont un nom polonais.
Puis une culture peut-être un peu nouvelle et modifiée d'origine qui existe encore.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on a, même si on n'est pas polonais, on a tous un morceau dans le cœur de Polonais en chacun de nous, hein, que ce soit à travers le Hercellens, la charcuterie. Enfin, voyez, je ne suis pas Polonais du tout, mais quand j'entends le mot Pologne, je me dis, ah bah ça, c'est moi, en fait.
Voilà, Kubiak, etc. Voilà, c'est ça, enfin, voilà, il y a une vraie ambiance, un folklore aussi.
Oui, c'est ça, on est... les gens du Nord sont tous un peu franco-polonais.
Bah parce que les Polonais sont un peu festifs quand même.
Oui, ils nous ont apporté bien évidemment leur, je dirais, ce qui les caractérise, hein, la joie, la fête, l'abnégation dans le travail. Oui, oui, bien sûr, on est ça. Et après, dans les années 50, il y a une crise de l'emploi, c'est-à-dire que les houillères hein, n'arrivent pas à trouver de mineurs. Personne ne veut faire ce métier de chien, en fait.
Donc après, il y a une deuxième phase d'émigration ou d'immigration, hein. C'est celle des, par exemple, des Marocains.
Oui, voilà. C'est-à-dire que dans les années 50, les HBNPC, donc les houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais, ont toutes les peines du monde à recruter des jeunes, puisque les mineurs disent, en patois, hein, « Ti, ma garçon, tira pas le fosse ». Et donc là, on va envoyer vraiment des émissaires dans le Maghreb, où on va vanter, bien évidemment, la vie dorée d'un mineur dans le Pas-de-Calais.
Avec un agent recruteur, Mora, qui s'appelle Mora.
Voilà, c'est ça, on a les noms, on sait très bien qui a fait quoi, qui a dit quoi. Et donc, il y avait des rabatteurs dans les villages marocains, ou tunisiens, ou algériens. Il y avait vraiment des rabatteurs. Et on promettait, monts et merveilles, à ces travailleurs immigrés. Et quand ils arrivaient ici, ils étaient logés dans des baraquements infâmes. Enfin, si vous voulez, c'est toujours pareil. Hein. On vous promet monts et merveilles, et puis quand vous arrivez, c'est pas ça du tout.
Alors, en termes de photos, est-ce que tout ça, c'est documenté? C'est-à-dire, on a la propagande, comme vous le disiez. Est-ce que de l'autre côté, quand il y a des catastrophes ou quand il y a des conditions de travail difficiles, est-ce que là, on a encore de la photographie qui est présentée?
Alors écoutez, votre question est très pertinente, sauf qu'elle va demander une réponse très précise que je ne vais pas faire en une seconde. Effectivement, vous avez de l'image de propagande, c'est-à-dire vous avez des mineurs qui tapent au marteau-piqueur dans la paroi en souriant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un marteau-piqueur, ça vous détruit le dos, vous voyez, et il faudra plusieurs lois pour obliger à limiter le temps de travail au marteau-piqueur à 2 heures par jour. Parce que je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un marteau-piqueur. Marteau-piqueur vous détruit toute la carcasse, il, par ses vibrations répétées, il crée de la poussière, ce qui fait que quand on va faire usage du marteau-piqueur à partir des années, ça va monter en puissance, mais après les années 20, on va beaucoup utiliser le marteau-piqueur, bien évidemment, la silicose va monter en flèche.
Les haveuses, c'est peut-être encore pire d'ailleurs.
Non, parce que les haveuses, si vous voulez, arrachent le charbon et le mineur qui conduit la haveuse n'est pas au plus près du rabot qui arrache. Le marteau-piqueur, vous l'avez au bout du bras et la poussière, vous la prenez en pleine gueule tout de suite. Donc, si vous voulez, le pic de silicose va apparaître à partir des années 20 et ça va continuer après. Mais après, on va inventer des systèmes de protection, des masques, etc. Sauf que c'est comme le Covid. Si vous mettez un masque, c'est sûr, vous n'allez peut-être pas attraper le Covid, mais vous ne pouvez pas respirer, donc vous ne pouvez pas travailler. Donc, si vous voulez, tout ça est très compliqué. On ne peut pas en un slogan, si vous voulez résumer une situation. Alors, pour parler des photos de propagande, c'est assez amusant parce que, bien évidemment, il y a de la photo de propagande, mise en scène, souriante, c'est merveilleux. C'est... Au pire, on a l'impression que les trieuses de charbon cueillent des fleurs. Non, elles ont les mains dans la merde et elles trient le charbon avec des cailloux, elles ont les mains défoncées. Donc, il y a eu ça, mais les photographes faisaient aussi des photos, je dirais, à la sauvette, qu'on ne publiait pas, qui montre la peine du travail. Et quand on va aujourd'hui dans les archives, bah certes, on trouve les photos de propagande, et puis on trouve aussi les photos qu'on ne pouvait pas publier.
Alors, quand on parle des archives, il y a les archives du monde du travail, il y a aussi les WARD aussi.
Oui, voilà. Alors, les lieux d'archives sont multiples. Hein. Alors, il y a deux grosses institutions dans la région. Bien sûr, il y a le musée de le WARD, qui a une grande partie des collections qui lui sont déléguées d'ailleurs par les archives du monde du travail de Roubaix. Il y a d'autres archives dans certaines mairies, hein, à Lens par exemple, c'est vraiment très bien fait. Il y a les archives départementales. Et nous, notre travail avec Jean-Marie a consisté à aller rencontrer des collectionneurs privés. C'est-à-dire des gens qui ont une passion et qui par héritage familial, ont acheté, collectionné, hérité. Et donc sur Lens, on a rencontré 10 collectionneurs privés qui nous ont ouvert leur boîte, et plus les nôtres. Quand on fait un livre, c'est un peu la... c'est un déchirement, parce qu'il faut choisir 600 photos parmi 6, 12 000. Quoi.
Donc, on va rappeler le nom du livre.
Alors, c'est une collection, ça s'appelle Pays et paysages industriels du bassin minier Pas-de-Calais. Et on va faire 6 livres en découpant le bassin minier en 5 morceaux. Et on va donc, on a fait Douai, on a fait Lens-Liévin. Et là, cet automne, on sort Hénin-Ouagny.
Voilà. Donc, d'un point de vue universitaire, puisque vous êtes professeur d'université, bon, en retraite, mais on en garde quand même quelque chose,
oui, quand même, ouais.
Notamment les mémoires de qu'est-ce qu'on fait dans une université pour faire connaître, pour aussi chercher dans ces domaines.
C'est vrai, l'université, d'abord, il faut faire la distinction entre la licence et le master et le doctorat. Hein. On ne fait pas pareil, on ne fait pas la même chose en licence qu'en doctorat, quand même. L'université, c'est de la recherche et de la transmission. Alors, transmission, c'était aux enseignants à mettre dans ce qu'on appelle les maquettes d'enseignement, les bons contenus. Bon, la question, que fait l'université au niveau de la recherche ? Nous sommes plusieurs, vous avez les historiens, et puis vous avez aussi ceux qui peuvent s'intéresser à l'iconographie, donc les historiens de l'art, les plasticiens, où on va s'intéresser, aux usages de la photographie dans l'histoire industrielle, parce que il n'échappe pas qu'on a inventé le charbon, enfin on a exploité le charbon et on a inventé la photographie au même moment. Et quand on a inventé la photographie, quelques temps après, on va mettre un moteur dans l'appareil photographique et ça donnera le cinéma. Donc la photographie et le charbon, c'est un peu la même histoire dans la mesure où la photographie va être le médium par excellence de la propagande en fait industrielle. Si vous voulez, il y a deux moteurs qui transforment la société dans le courant du 19e, c'est le charbon et la photographie, parce que la photographie permet, si vous voulez, le développement de la société capitaliste. Puisque quand je dis photographie, il faut être même plus précis, hein, c'est ce qu'on appelle à l'université, l'image indicielle, c'est-à-dire celle que l'on fait sur les lumières du réel. Donc vous avez photographie, cinéma, télévision, ce sont des images qui sont faites à partir de la réalité, donc qui ont une crédibilité que n'a pas la peinture. Et puis surtout une productivité. Faire une peinture, c'est long. Faire une photographie, clic-clac, terminé. Hein. C'est Kodak. Hein. Appuie sur le bouton, on fait le reste. Donc si vous voulez, la société capitaliste va naître de deux choses. Une énergie en abondance, le charbon et le pétrole. Et va naître aussi de ce médium extrêmement productif qu'est la photographie. Voyez ? Et s'il n'y avait pas la photographie, il n'y aurait pas de société de l'information, il n'y aurait pas de publicité, il n'y aurait pas de propagande. Et donc, il y a là deux gisements miraculeux, photographie et charbon. Voilà. Et c'est ça qui donne naissance à la société capitaliste.
Donc, l'université de Lille a été longtemps la seule en région. Maintenant, il y a l'université d'Artois. Est-ce qu'elle, justement, travaille sur ces sujets-là ? Est-ce qu'elle documente aussi, pas seulement le public, mais la réflexion générale universitaire ?
Voilà. Alors, sur l'université d'Artois, deux mots. D'abord, elle est fléchée science exacte. Hein, surtout, conséquemment, elle forme surtout des ingénieurs, etc.
Sur Lens ?
Sur Lens.
Mais sur Arras ?
Alors, sur Arras, peut-être, mais moi, étant enseignant à Lille, je ne sais pas le détail des maquettes, donc je ne vais pas me prononcer. Mais il y a, effectivement, dans tous les départements de sciences humaines, fatalement une préoccupation pour l'histoire. Maintenant, puisque vous parlez d'université, il faut savoir que l'université Jean Perrin de Lens est installée dans les grands bureaux des mines de Lens. Et les étudiants de Lens ont vraiment, vraiment de la veine, ça il faut le dire. Parce qu'ils sont quand même dans un bâtiment exceptionnel, c'est un château. Et dans le livre que nous venons de publier, nous faisons l'histoire de ce château, d'autant plus que nous avons travaillé avec Denis Bûcher, dont le grand-père était le directeur des mines de Lens, et c'est lui qui a construit ce bâtiment. Donc on a des photos exceptionnelles, des chantiers, etc. Puis on a du vécu, quoi.
Donc ce château, c'est le symbole de l'empire des mines, des houillères du bassin de Lens.
Alors, les mines de Lens ont les grands bureaux aujourd'hui, Université Jean Perrin, dont la magnificence, l'ambition du projet, etc., sont exceptionnels. Aucune compagnie n'a un si beau, aussi beau grand bureau. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est l'ironie de l'histoire, deux détails sur ce grand bâtiment, c'est que le directeur à l'époque est M. Cuvelette. Or, on est à Lens. Tout a été détruit. Donc pendant 10 ans, M. Cuvelette, de 1918 à 1929, vit dans des baraquements en bois. Et d'un seul coup, il est projeté dans ce château. C'est comme si vous passiez du bidonville à Versailles. Donc les directeurs des mines de Lens à l'époque sont vraiment les plus miséreux de la terre, puisqu'ils sont réduits au cabanon en bois de survie. Alors quand ils se font construire un puits de mine, ils se font plaisir. Et comme les mines de Lens sont vraiment très riches grâce à la nature du gisement, bon allez, on va se payer des bureaux, on va vraiment mettre le paquet, on va écraser tout le monde. C'est ça qui s'est passé.
Alors sur quel modèle ils sont projetés pour définir l'architecture de ce lieu ?
Alors, c'est très amusant parce qu'ils sont catholiques. Et donc fatalement, ils vont confier la construction des bureaux à un architecte catholique. Or, cet architecte catholique, il est très connu dans la région, c'est Cordonnier, Maud Cordonnier. Et en fait, c'est vraiment un style extérieur régionaliste qui scande un petit peu la tradition, si vous voulez, flamande, vous voyez, les pignons. Ça ressemble à l'hôtel de ville d'Armentières, d'une certaine manière, en fait, les bureaux des mines de Lens. Parce qu'en fait, le catholicisme, il est conservateur sur le plan architectural. Vous voyez, on reprend, vous voyez, une solennité qui est propre, je dirais, oui, à la tradition. Mais le fils de Cordonnier, qui va gérer l'intérieur, va lui être beaucoup plus moderne et faire un programme art déco. Ce qui fait que ce bâtiment est un mélange de régionalisme, hein, néo-flamand, et de modernité, on est dans les années 30, hein, années 20, d'art déco. Ce qui fait que, là encore, c'est passionnant. Mais l'architecture est là aussi l'expression d'une lutte entre les forces conservatrices et les forces progressistes. C'est amusant.
Alors, l'art déco, peut-être que c'est une des caractéristiques à Lens. Il y a d'autres villes hein, dans la région art déco qu'on peut visiter justement sous cet angle-là.
Bien sûr, il faut dire que c'était ce que j'enseignais à l'université. L'esthétique est toujours liée à la politique. D'ailleurs, chaque grand régime se caractérise par une esthétique. Vous savez, d'une certaine manière, le nazisme, certains ont prétendu que c'était un cauchemar d'artiste. C'est vrai, Hitler était un étudiant Beaux-Arts de Vienne. Et en fait, la transcendance d'une politique, c'est son esthétique. Le catholicisme sans les cathédrales et les monastères, et la musique baroque, et la grande peinture.
Voilà, donc il y a des courants d'art, et sur ce campus, il y a peut-être des courants d'air aussi.
Bien sûr, mais l'histoire de l'architecture, l'histoire des idées, l'histoire des croyances, tout ça se croise, et ce qui est intéressant, c'est de mêler tout ça.